Mais voici la question qui me préoccupe. Si Dieu n'existe pas, qui donc gouverne la vie humaine, et en général l'ordre des choses sur la terre ? C'est l'homme qui gouverne, se hâta de répondre le poète courroucé, bien que la question, il faut l'avouer, ne fut pas très claire. Permettez-moi, dit doucement l'inconnu, mais pour gouverner, encore faut-il être capable de prévoir l'avenir, avec plus ou moins de précision, et pour un délai tant soit peu acceptable. Or, permettez-moi de vous le demander, comment l'homme peut-il gouverner quoi que ce soit, si non seulement il est incapable de la moindre prévision, ne fût-ce que pour un délai aussi ridiculement bref que, disons, un millier d'années, mais si en outre, il ne peut même pas se porter garant de son propre lendemain ? Tenez, imaginons ceci, reprit-il en se tournant vers Berlioz. Vous, par exemple, vous vous mettez à gouverner. Vous commencez à disposer des autres et de vous-même. Bref, comme on dit, vous y prenez goût et soudain, vous attrapez un sarcome au poumon. En disant ces mots, l'étranger sourit avec gourmandise, comme si l'idée du sarcome lui paraissait des plus agréables. « Oui, un sarcome » répéta-t-il en fermant les yeux et en ronronnant comme un chat. « Et c'est la fin de votre gouvernement. » Dès lors, vous moquez éperdument du sort des autres. Seul le vôtre vous intéresse. Vos parents et vos amis commencent à vous mentir. Pressentant un malheur, vous courez voir les médecins les plus éminents. Puis, vous vous adressez à des charlatans et vous finissez, évidemment, chez les voyantes. Tout cela, ai-je besoin de vous le dire, en pure perte. Et les choses se terminent tragiquement. Celui qui, naguère encore, croyait gouverner, se retrouve allongé, raide, dans une boîte en bois, et son entourage, comprenant qu'on ne peut plus rien faire de lui, le réduit en cendres. Mais peut y avoir pire encore. On se propose, par exemple, quoi de plus insignifiant, d'aller faire une cure à Kislovodsk. L'étranger lança un clin d'œil à Berlioz. Et voilà, nul ne sait pourquoi, qu'on glisse et qu'on tombe sous un tramway. Allez-vous me dire que celui à qui cela arrive l'a voulu ? N'est-il pas plus raisonnable de penser que celui qui a voulu cela est quelqu'un d'autre, de tout à fait neutre ? Et l'inconnu éclata d'un rire étrange. Berlioz, qui avait écouté avec une attention soutenue la désagréable histoire du sarcome et du tramway, et maintenant une idée inquiétante le tourmentait. « C'est pas un étranger ». C'est pas un étranger, pensait-il. C'est, sauf le respect, un type extrêmement bizarre. Mais qui cela peut-il être ? Vous désirez fumer à ce que je vois, dit tout à coup l'inconnu à Berdomi. Quelle est votre marque préférée ? Surpris, le poète, qui effectivement n'avait plus de cigarette, répondit d'un air maussade. Pourquoi ? Vous en avez plusieurs ? Laquelle préférez-vous ? Répéta l'inconnu. Des notre marque, jeta Berdomi d'un ton aigre. Aussitôt, l'étrange individu tira de sa poche un étui à cigarette et le tendit à Berlioz. Voici des notre marque. Le rédacteur en chef et le poète furent moins étonnés par le fait que l'étui contenait justement des cigarettes notre marque que par l'étui lui-même. C'était un étui en or de dimension extraordinaire dont le couvercle s'ornait d'un triangle de diamants qui brillait de mille feux bleus et blancs. Les pensées des deux hommes de lettres prirent alors un cours différent. Berlioz, si... C'est un étranger, et Berlioz, qu'il aille au diable à la fin. Le poète et le propriétaire de l'étui prirent chacun une cigarette à l'allumèrent. Berlioz, qui ne fumait pas, refusa. Voilà ce qu'il faut lui objecter, pensa Berlioz, résolu à poursuivre la discussion. Certes, l'homme est mortel, personne ne songe à le nier, mais l'essentiel c'est que. Mais l'étranger ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche. Certes, l'homme est mortel, dit-il. Mais il n'y aurait encore là que demi-mal. Le malheur, c'est que l'homme meurt parfois inopinément. Voilà le hic. Et d'une manière générale, il est incapable de savoir ce qu'il fera le soir même. Quelle façon absurde de présenter les choses, pensa Berlioz, qui répondit. Là, vous exagérez. Pour moi, par exemple, je sais à peu près exactement ce que je vais faire ce soir. Évidemment, si dans la rue Bonaya, une tuile me tombe sur la tête, jamais une tuile ne tombera par hasard sur la tête de qui que ce soit. Interrompit l'étranger avec un grand sérieux. « Vous, en particulier, vous n'avez absolument rien à craindre de ce côté. Vous mourrez autrement. »« Ah, vous savez sans doute exactement comment je mourrai, » s'enquit Berlioz avec une ironie parfaitement naturelle, acceptant de suivre son interlocuteur dans cette conversation décidément absurde. « Et vous allez me le dire ?»« Bah, bien volontiers, » répondit l'inconnu. Il jaugea Berlioz du regard, comme s'il voulait lui tailler un costume, marmonna entre ses dents quelque chose comme 1, 2, Mercure dans la deuxième maison, la lune est partie, 6, un malheur, le soir, 7. Puis à haute voix, il annonça gaiement « On vous coupera la tête !» Stupéfié par cette impertinence, Berlioz dévisagea l'étranger avec une haine sauvage, cependant que Berlioz demandait en grimaçant un sourire « Ah bon ? Et qui cela ? L'ennemi ? Les interventionnistes ? Non, répondit l'autre, une femme russe, membre de la jeunesse communiste. Grogna Berlioz, irrité par cette plaisanterie de mauvais goût. Excusez-moi, mais c'est peu vraisemblable.
Excusez-moi à votre tour, répondit l'étranger, mais c'est la vérité.
Ah oui, je voulais vous demander ce que vous comptiez faire ce soir. Ce n'est pas un secret.
C'est pas un secret. Je vais d'abord rentrer chez moi, rue Sadovaya, puis à 10h, j'irai présider la réunion du Massolite.
C'est le journal dont il est rédacteur en chef.
Tout à fait impossible, répliqua l'étranger d'un ton ferme.
Et pourquoi ?
Clignant des yeux, l'étranger regarda le ciel, que des oiseaux noirs, pressentant la fraîcheur du soir, zébraient d'un vol rapide et répondit « Parce qu'Anouchka a déjà acheté l'huile de tournesol. Et non seulement elle l'a achetée, mais elle l'a déjà renversée, de sorte que la réunion n'aura pas lieu. » On comprendra aisément que le silence se fit sous les tilleuls.
« Pardon, mais enfin... » dit enfin Berlioz en dévisageant l'individu bavard. « Mais que vient faire ici l'huile de tournesol ? Et de quelle Anouchka parlez-vous ?
Je vais vous le dire, moi, ce qu'elle vient faire ici, l'huile de tournesol, proclama Soulien Biesdemi, apparemment résolu à déclarer la guerre à l'opportun. Dites-moi, citoyen, vous n'auriez pas séjourné, par hasard, dans une clinique pour malades mentaux ?
Ivan, protesta à voix basse Mikhail Alexandrovitch.
Mais l'étranger, bien loin de se montrer offensé, éclata d'un rire joyeux.
Bien sûr, et plus d'une fois, s'écria-t-il en riant, mais sans détacher du poète un œil qui, lui, ne riait pas du tout.
Où n'ai-je pas séjourné d'ailleurs ? Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir eu le loisir de demander au professeur ce qu'est la schizophrénie. C'est donc vous-même qui le lui demanderez, Ivan Nikolaïevitch.
Comment savez-vous de mon nom ?
Voyons, Ivan Nikolaïevitch, qui ne vous connaît pas ?